Radio Okapi. Du procès Mamadou Ndala à Beni. Les indices probables de complicité de sa garde se confirment sur l'assassinat de cet officier des FARDC. Le ministère public l'a démontré hier, tard dans la soirée. Manifestation des ouvriers ce matin en Ituri. Ils sont une cinquantaine à construire le bâtiment devant abriter le centre d'impôt synthétique de Bounia, mais reste impayé voici plusieurs mois. L'entreprise qui exécute les travaux incrimine plutôt la Banque africaine de développement. Et puis cette bonne note dans la zone de santé de Ruzizi au sud Kivu. C'est la baisse sensible des cas de choléra ces deux dernières semaines. Le médecin chef de zone de santé s'en félicite et salue l'appui de tous les partenaires impliqués dans la lutte. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous avoir choisis. Nous sommes à la troisième journée d'audience du procès sur l'assassinat du colonel Mamadou Ndala à Beni au nord Kivu. Les indices sérieux sur sa mort avec la complicité de quelques soldats de sa garde se confirment. C'est le ministère public qui l'a démontré hier, tard dans la soirée, devant la cour lors du débat avec les avocats des prévenus. Gabriel Ouaménia, vous êtes sur place à Beni. Dites-nous en plus.
Le ministère public a fondé sa conviction après avoir suivi les dépositions faites hier par les prévenus l'adjudant Safari Banga Mwabo et le capitaine Moussa Banza Rajabu. Pour le premier, le ministère public a brandi un bulletin de renseignement produit par un agent de l'ANR où l'adjudant Safari Banga Mwabo, tireur d'une arme d'appui de la suite de commandement du colonel Mamadou, a déclaré deux jours avant la mort du colonel que, je cite, selon l'unité publique, même si nous tombons dans une embuscade, j'enlèverai la tenue et je vais fuir. Fin de citation. Ce même prévenu a poursuivi l'unité publique, aurait été surpris en train de fuir le corps du colonel juste après l'attaque. Ce qui suppose, selon l'unité publique, que le prévenu aurait été soudoyé. La double identité continue dans la fiche des renseignements militaires du deuxième prévenu, le capitaine Moussa Banza Rajabu, l'un des plus proches du colonel Mamadou, a laissé perplexe la cour. Ce dernier convoyé au même moment dans une autre jeep, le colonel Mamadou. Mais juste après l'attaque, il est rentré à Beni. L'hypothèse donc d'une complicité de ces deux prévenus sera démontrée lors du réquisitoire, a conclu le colonel Bakeleba. Depuis Beni, Gabriel Ouaménia à Radio Okapi.
Et justement, en rapport avec ce procès, la nouvelle société, la nouvelle dynamique de la société civile du Sud qui vous appelle la justice militaire à se mettre du côté de la vérité pour bien venger le colonel Mamadou Ndala, assassiné dans des circonstances non encore élucidées. Cette structure réagit ainsi après l'annonce de la mort du sergent-major Ngabo, chauffeur du colonel Mamadou Ndala. Cela au lendemain de sa comparution comme témoin dans le procès sur cet assassinat. Écoutons le président de la nouvelle dynamique de la société civile ville du Sud Kivu, Jean Chrysostome Kijana, au micro de Delphine Amuto.
Ça serait l'arbre qui cacherait la forêt, parce qu'on s'est dit à qui profiterait cette mort. Étant donné que le sergent-major Ngabo, c'était l'un des piliers parmi les 20 prévenus en détention, ça nous a fait de sérieuses inquiétudes quant à l'issue de ce procès. C'est pourquoi nous avons fait ressortir notre déclaration, parce que nous suivons ce procès de très près, à travers notre noyau de l'INDC à Beni Butembo. Nous avons interpellé la justice militaire afin qu'ils se mettent du côté de la vérité. Ça serait pour eux une bonne manière de rendre justice à tous ces officiers qui sont tombés dans des circonstances non élucidées. Nous avons aussi interpellé les organisations de défense des droits humains qui suivent de très près ces procès, de rester très vigilants et de suivre à la loupe toutes les déclarations, toutes les dépositions, et que si nous ne sommes pas satisfaits au niveau de cette cour opérationnelle, qu'il y ait d'autres mécanismes tant sous-régionaux, africains qu'internationaux pourraient être mis en œuvre afin qu'un jour le peuple congolais soit informé des réalités des auteurs de cet assassinat. Ça serait une bonne manière de mettre fin à l'impunité dans notre pays et ça pourrait placer notre pays sur la voie d'un état de droit.
Retournons au nord Kivu, le calme est revenu ce matin dans la localité de Nyamilima, en territoire de Rutshuru. C'est après des affrontements toute la journée d'hier entre les FARDC et les combattants résiduels Mai Mai venus de l'ouest de la localité. Des sources administratives dans la région affirment que deux civils ont été tués dans ces combats. Aucun bilan côté assaillant ou FARDC n'est disponible jusqu'ici. Bernardin Nyangi pour les détails.
Les premiers accrochages ont eu lieu hier de 12h à 13h locales. Les Mai Mai ont attaqué la position FARDC sur la colline Oumoulé, dans l'ouest du village Nyamilima. Les tirs à l'arme lourde et légère ont paniqué la population. Les commerces ont été fermés. Une panique s'est emparée des élèves dans les écoles, indique la société civile locale. Les Maïmaï ont été repoussés, mais ils ont attaqué à nouveau la même position FARDC vers 18h. Mais ils ont une fois de plus été repoussés par les FARDC, ajoutait l'administrateur du territoire de Rutshuru. Jusque-là, le groupe auquel appartiennent ces assaillants n'est pas connu, mais pour d'autres sources concordantes à Nyamilima, ces derniers ont attaqué le village en représailles après le démantèlement de leur base hier dans la matinée par les FARDC dans le parc de Virunga à l'ouest de Nyamilima. Pour le moment, le bilan provisoire de ces affrontements fait état de 2 morts côté civil. Ils auraient été victimes de balles perdues dans leur champ pendant que les FARDC poursuivaient les assaillants, indique la société civile locale. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Direction la province orientale. Les travaux de construction d'un nouveau bâtiment devant abriter le centre d'impôt synthétique de Bounia sont suspendus. Les ouvriers non payés régulièrement depuis le début de la construction de l'ouvrage ont manifesté ce vendredi à Bounia pour réclamer leur dû. L'entreprise congolaise de construction routière qui exécute les travaux incrimine, elle, la Banque africaine de développement, bailleur principal de l'ouvrage qui n'honore pas ses factures en souffrance. Explication, Jean-Paul Bassila.
Environ 50 ouvriers, parmi eux des maçons et des ferrailleurs, ont manifesté ce vendredi devant le chantier des constructions du nouveau bâtiment du centre d'impôt synthétique à Bounia. David Lutumbe, contre-maître au chantier, explique les ras-le-bol de son équipe.
Nous ne sommes pas payés depuis que nous avons commencé à travailler jusqu'à présent. C'est ainsi que nous avons décidé de suspendre tous les travaux.
Le contrat dont nous sommes en train de réclamer l'argent, c'est la fondation et l'élévation. Qu'ils nous paient d'abord ce que nous avons déjà fait et qu'ils nous garantissent l'étape qui vont suivre, que réellement nous allons recevoir notre argent.
L'entreprise congolaise des constructions routières SSR qui exécute les travaux estime avoir déjà dépensé assez au chantier. Selon cette entreprise, c'est la Banque africaine de développement qui traîne à donner de l'argent pour la suite. L'un des patrons de l'SSR, Jean Téléphone, estime même que son entreprise ne saura plus respecter les délais des 6 mois prévus pour rendre l'ouvrage.
Ce qu'on a sur chantier, ça c'est le préfinancement de l'entreprise. C'est notre financement propre. Le financement base n'a pas suivi. Il a connu un retard, ce qui fait que les gens sont aujourd'hui dans la rue en train de bouder. Maintenant, avec ce retard de paiement, vraiment, nous serons dans l'impossibilité de respecter la date.
À Kinshasa, au bureau pays de la Banque africaine de développement, personne ne veut encore se prononcer sur ces dossiers. Bounia, Jean-Paul Vassila, Radio Okapi.
Pendant ce temps, au Bas-Congo, les conducteurs des véhicules poids lourds sont à leur 4e jour de grève. Une rencontre s'est tenue hier à Matadi à ce sujet entre le ministre provincial des Transports et les membres des forces ouvrières du Congo, syndicat des chauffeurs. Objectif, chercher des voies et moyens pour décanter cette situation qui a paralysé les activités dans le secteur de transport des véhicules poids lourds. Dani Kindanzita pour le reportage.
Au cours de cette rencontre, une commission ad hoc a été créée. Sa mission, identifier les entreprises qui respectent le protocole d'accord signé le 19 janvier 2013 fixant le barème salarial à 300 000 francs congolais pour les chauffeurs et 150 000 francs congolais pour les convoyeurs. Cette commission est constituée des délégués du ministère provincial du travail, de transport et voies de communication, de l'inspection provinciale du travail, de la police nationale congolaise, du syndicat Force ouvrière du Congo, de la Fédération des entreprises du Congo et de l'association des routiers du Congo. Cette grève qui dure depuis plusieurs jours fait que les camionneurs occupent certains lieux pour empêcher le mouvement des véhicules poids lourds sur la nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi. Pour mettre fin à cet arrêt de travail, le gréviste ne jure que par l'application du protocole d'accord. Par ailleurs, la police nationale congolaise du Bas-Congo, de son côté, met en garde quiconque tenterait de troubler l'ordre public pendant cette grève observée officiellement depuis le lundi dernier. Tadi Danikin Danzita, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, baisse sensible des cas de choléra dans la zone de santé de Ruzizi ces 2 dernières semaines au sud Kivu. Selon le médecin directeur de l'hôpital général de Ruzizi, cette zone de santé a enregistré 107 cas de choléra, dont un décès depuis début août, soit une moyenne de 13 cas par semaine contre 4 cas seulement ces 2 dernières semaines. Pour le médecin chef de zone de santé de Ruzizi, le centre de traitement de choléra à Sangé ne compte aucun malade pour le moment. Docteur Moubiri Namiaba donne les raisons de cette diminution. Il est au micro de Gilbert Kwangaba.
Cela est dû à 3 stratégies que je peux dire que nous avons prises. La toute première stratégie, c'est la prise en charge précoce des cas. C'est là pour éviter la propagation. Ça, c'est la toute première stratégie. La deuxième stratégie, c'est la sensibilisation. Où, dès que nous avons des cas qui commencent, nous commençons rapidement à faire la sensibilisation au niveau de la communauté, à interdire la consommation d'eau non traitée, mais aussi, et comme troisième stratégie, c'est la prévention, où on commence avec l'appui des partenaires, et que je citerai Oxfam, Grande-Bretagne et MSF Hollande, qui nous appuient par rapport à la sensibilisation, mais aussi par rapport à la prise en charge.
Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi, mais je vous prie de rester avec nous pour la suite.
Okapi, Okapi, Okapi.